Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et à partir d'aujourd'hui, le Mali observe un deuil de 3 jours, deuil national en hommage aux 20 morts, aux 19 clients et aux gendarmes maliens tués donc vendredi dernier lors de cette attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blue à Bamako, en plein cœur de la capitale malienne. Avec Serge Daniel, correspondant d'RFI au Mali, et Gilles Yabi, consultant sur les pays d'Afrique de l'Ouest et créateur de Wati, qui est un groupe de réflexion africain, nous répondons à toutes vos questions et elles sont nombreuses au standard. Vous continuez évidemment à nous appeler. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Fatou, bonjour.
Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
D'accord, merci. Déjà ma solidarité avec le peuple malien et tous les peuples victimes de ces barbaries. Je voudrais savoir pourquoi cet attentat, l'attaque de l'hôtel Radisson Blue de Bamako, est revendiqué par deux groupes. D'abord, c'était Al-Mourabitoun. Et hier nuit, le Front de Libération du Massina. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe au niveau de ces groupes terroristes.
Et on comprend évidemment vos interrogations. Serge Daniel, faut-il être surpris par cette double revendication ?
Je ne suis personnellement pas surpris pour au moins 3 raisons. Vous savez, il y a des passerelles entre tous ces groupes. Hein, tous ces groupes, il y a des passerelles. C'est bonnet blanc, blanc bonnet en réalité. Alors ensuite, en période de crise, l'une des astuces de ces groupes, c'est que celui qui peut revendiquer avant l'autre le fait au nom de tout le monde, et cela n'empêche pas l'autre de dire j'ai contribué aussi. Et puis quand même, il y a une autre raison, c'est que entre ces groupes, il y a des problèmes de leadership. Il y a des problèmes de leadership parce que l'attaque, par exemple, du Radisson Blue de Bamako, c'est la plus importante attaque qu'on ait connue dans la capitale malienne. Donc, c'est tout le monde en parle sur le plan planétaire. Vous avez vu la Russie, tout le monde en parle. L'ONU a condamné. Donc, c'est quand même très très médiatique et médiatiquement, il faut pour ces groupes-là être présent.
Mais du coup, qui serait véritablement derrière cette attaque ? Plutôt le Front de Libération du Massina, plutôt le groupe de Mokhtar El-Bokhtar, qu'on disait jusqu'à présent perte d'influence, moins opérationnel ces derniers mois ?
Il y a une forte probabilité, c'est le discours de l'enregistrement sonore de Yadar Ali, de Ansardine Ali Akmi, qui est intervenu quelques jours avant l'attaque, en demandant à tous ces fédéines, aux Moudjahidines, d'attaquer les intérêts français, d'attaquer, de faire usage de leurs bombes et de leurs explosifs. L'impression, mon sentiment, c'est que c'est une attaque qui a été menée par plusieurs groupes à la fois.
Ouais. Vous parliez tout à l'heure des réactions internationales, c'est vrai qu'elles sont nombreuses. François Hollande, dès vendredi, a promis le soutien de la France et affirmé que Paris était disponible auprès, je cite, de l'ami malien auquel le président français a renouvelé toute sa solidarité et son soutien. De réaction également de Ban Ki-moon, qui a condamné une attaque terroriste odieuse. Barack Obama a déclaré que cette attaque renforçait, je le cite, notre détermination à relever le défi du terrorisme. Les États-Unis seront impitoyables. On rappelle qu'il y avait 6 Américains dans l'hôtel Radisson. Commentaire également du président chinois qui a fermement condamné l'attaque. La Chine va renforcer sa coopération internationale, a déclaré le président Xi Jinping. Gilles Yabi, à l'instant, Serge Daniel parlait de passerelle entre les différents groupes armés maliens. Y a-t-il des interconnexions entre les groupes maliens et les autres groupes armés islamistes de l'Afrique de l'Ouest ?
Oui, je pense qu'il faut d'abord rappeler chaque fois qu'il y a quand même un passé récent, une occupation en 2012 de tout le nord malien par des groupes, en particulier Ansardine de Yadagali, le Moudjao qui s'est implanté plutôt dans la région de Gao. Et il faut pas oublier que ces deux groupes, en réalité, étaient connectés à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui, lui, est installé dans cette partie du Mali et dans l'ensemble du Sahel depuis une dizaine d'années. Et donc, à l'intérieur interventions françaises, Serval puis Barkhane, déstabilisent tous ces groupes armés et induit un changement de mode d'action. Et là, ils passent à un mode d'action terroriste qui est extrêmement difficile à contrer et qui ne se contre pas de manière prioritaire par la force armée. Ils se contrent à nouveau davantage par du renseignement. Alors les passerelles, oui, elles existent entre ces différents groupes au nord Mali, mais elles existent également avec d'autres groupes armés, Boko Haram par exemple au Nigeria. Même si je pense qu'il est toujours important de garder l'importance du contexte local, c'est-à-dire que Boko Haram, on peut pas avoir une analyse de Boko Haram qui soit exactement la même que l'analyse qu'on peut faire des groupes armés du Sahel qui sont liés aux réalités des États du Sahel, mais également à l'Afrique du Nord et à l'Algérie, et bien sûr à la situation actuelle en Libye. Donc oui, il y a des passerelles, mais je crois aussi que le fait qu'on ait plusieurs revendications, ce n'est pas nécessairement surprenant, et il ne faut pas oublier à nouveau que, par exemple, le Front de Libération du Massina est très proche d'Iad Agali, et qu'on a une sorte de projection maintenant des groupes armés du Nord vers le centre et le sud du pays. On a eu des attaques à la frontière avec la Côte d'Ivoire, on est quand même très loin du Nord Mali.
Tout à fait.
Relève effectivement le changement de mode d'action des groupes armés terroristes.
C'est vrai que la présence des troupes françaises fait en sorte que ces groupes armés islamistes descendent de plus en plus vers le sud. Depuis le début de l'année, on a effectivement constaté des attaques au centre du pays et ensuite plus au sud. La preuve encore, l'attentat vendredi dernier à Bamako. Autre question au standard, Mohamed, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Et avant de poser mes deux questions, je vous demande de me permettre de me décliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Ma première question, c'est de savoir d'où proviennent les armes du groupe Almoura Bitoun. Et ma deuxième question, d'où proviennent les ressources financières?
Alors, vous vous intéressez, au groupe de Mokhtar Belmokhtar, on va évidemment répondre à votre question, et plus largement, essayons de comprendre effectivement comment cette galaxie de groupes djihadistes qui opèrent au Mali parviennent-ils à s'équiper en armes et surtout à être financés. Serge Daniel, concernant donc Almoura Bitoun, que sait-on de leur moyen de fonctionner, des armes, du financement?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Almoura Bitoun, il y a quand même, on l'a dit, l'Algérien Ben Mokhtar qui vient de l'Algérie, donc il a amené forcément des armes de là-bas au départ. Mais d'une manière générale, dans chaque katiba, c'est-à-dire chaque unité combattante, il y a une structure chargée de fournir des armes aux groupes armés islamistes. Alors, vous avez la contrebande, ça c'est facile. Vous avez l'achat de l'armement de certains armées régulières de la sous-région, ça a été démontré parce que des terroristes arrêtés ont dit « nous avons acheté de l'armement grâce à tel militaire, de telle armée ». Alors, donc armée régulière, vous avez également, et ça c'est très important parce que maintenant ils évoluent en mode de guérilla, hein, ça c'est très important, on dit, ici il y a l'effet de surprise, c'est la guérilla, le terrorisme. Donc il y a une fabrication locale à l'intérieur même de ces groupes-là, notamment fabrication d'explosifs. Fabrication d'explosifs, mais également fabrication de mines antipersonnelles. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur les armes des katibats, des unités combattantes dans le nord du Mali ou sur le territoire malien.
Et il en va de même pour le front du Massina. Le Massina, on rappelle, c'est cette région qui s'étend de la frontière mauritanienne jusqu'à la frontière burkinabé. Le front du Massina qui a quand même multiplié les attaques ces derniers mois, des attaques de villages, des assassinats ciblés également. Il procède de la même façon que le groupe Mokhtar.
C'est de la même façon. Il y a eu des responsables, des éléments du Front National de Libération du Massina qui ont été, des présumés djihadistes qui ont été conduits à Bamako. Alors, quelqu'un qui les a interrogés dit ceci, quand on leur dit d'où vous avez tiré, vous prenez les armes, ils disent nous avons volé des armes dans le stock de l'armée régulière dans la région de Mopti. Un autre a dit vers le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est un pays voisin du Mali, nous avons également acheté des armes.
Autre question au standard, Al-Mokhtar, bonjour.
Bonjour Johan, bonjour les éditeurs.
Vous nous appelez de Bandiagara au Mali, nous vous écoutons.
Voilà, les questions sont les suivantes. Qui sont-ils de ces terroristes? Quel est leur parcours et comment sont-ils arrivés à Bamako?
Alors, que sait-on des deux terroristes? D'abord, Serge Daniel, est-on sûr qu'ils n'étaient que deux, puisque dans la revendication du Front de Libération du Massina, le porte-parole fait référence à un commando de 5 personnes?
Tout à fait. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont au moins deux. Si on dit qu'ils sont au moins deux, Juan, on ne va pas se tromper. Alors, dans un communiqué, la ACMIM, une branche, pardon, El Mourabitoun, qui revendique également l'attaque, donne les noms, parle d'Abdel Hakim Al-Ansari et d'un certain Mouez Al-Ansari. Or, le qualificatif de Al-Ansari, dans la terminologie des djihadistes, désigne un combattant autochtone, c'est-à-dire qu'il serait donc des Maliens. Or, le problème, c'est que des témoins les ont entendus parler anglais, oui. des Maliens qui parlent anglais. Est-ce que c'est par subterfuge, pourtant ils avaient l'accent anglais, est-ce que c'est un subterfuge? Et on peut avoir des doutes là-dessus. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a vu deux terroristes tués, qu'ils étaient noirs, ils avaient la peau noire, et qu'ils parlaient en anglais. Voilà ce qu'on sait, oui, pour le moment.
Et ce qu'on sait également, c'est que les forces de sécurité maliennes recherchent 3 suspects susceptibles d'être impliqués dans l'assaut de vendredi dernier. Donc les deux terroristes tués au Radisson Blu, plus les 3 suspects qui sont recherchés en ce moment par la police, ça fait en tout 5 personnes.
Ça ne trompe personne. Et puis, je parlais tout à l'heure du procureur antiterroriste, M. Samaké, et il nous a dit ceci: nous sommes sur une bonne piste cette fois-ci, donnez-nous quelques jours, nous allons avoir des résultats. Donc, si on est un peu patient, on devrait en savoir un peu plus bientôt.
À suivre. En tout cas, pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. C'est ce que confirmait ce matin votre micro le procureur Boubacar Sidiki Samaké. Autre question au standard. Ousmane, bonjour. Ousmane, à Bamako, on a peut-être un petit problème avec Ousmane, si on peut me dire. Nous aussi, on commence à vous entendre, c'est parfait, merci beaucoup.
Ok, moi c'est Ousmane, je suis à Sévaré.
Très bien, on vous écoute.
Permettez-moi, M. Goumel, de souhaiter bon rétablissement aux personnes blessées et exprimer toute ma compassion aux familles des personnes, aux familles victimes. Quels sont les groupes terroristes en place au Mali? Ces groupes terroristes ont-ils le soutien des personnes influentes? Voilà mes questions, M. Goumel.
Alors, c'est vrai qu'on a du mal à se retrouver un peu dans cette galaxie djihadiste qui opère au Mali. Complexité des réseaux, Serge, vous disiez qu'il y avait des passerelles. Est-ce qu'on peut déjà déterminer le nombre de groupes islamistes armés aujourd'hui? Est-ce qu'on sait combien sont-ils?
On peut les évaluer, mais Juan, si vous me permettez de jouer un peu à l'indiscipliné, pour revenir rapidement, parce que c'était très important, ça faisait partie de la question également des deux terroristes, la presse malienne d'aujourd'hui, il y a un journal aujourd'hui qui explique comment il serait arrivé à Bamako. Ah oui. Le journal dit, ce sont les Échos, c'est très important, les Échos qui citent, qui rapportent le témoignage des travailleurs de l'hôtel Radisson, qui dit qu'il semble que les terroristes seraient arrivé déjà à Bamako, logerait à l'hôtel 2 ou 3 jours avant les événements. C'est un confrère local qui le dit et il fallait peut-être le donner à l'antenne, donner l'information à l'antenne.
D'autant que l'auditeur nous avait posé la question et c'est vrai que j'avais oublié cette dernière question. Que dire aujourd'hui, Serge Daniel, des différents groupes djihadistes au Mali?
Alors très rapidement, vous avez Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est le légendaire groupe de qui a fait allégeance à Acme, qui a ses patrons, plutôt ses chefs en Algérie. Le chef, c'est Yahya Abou Hammam, est un Algérien, son vrai nom c'est Gamel Oukacha. C'est lui qui représente Acme dans le nord du Mali. Ensuite, vous avez El Mourabitoun, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est la jonction, qui est la fusion, qui est l'alliance, je dirais par prudence, de deux groupes. Celui de Ben Mokhta, lui, il est en rupture avec Acme, mais il fait allégeance à Al-Qaïda mère et il attend toujours pour être adoubé. Ensuite, vous avez le Moujao, dans le même groupe, vous avez le Moujao qui, lui, a fait allégeance désormais à l'organisation terroriste État islamique. Vous avez en sardine de Yadar Ali, qui s'est exprimé récemment, allié d'Acme, donc vous voyez toujours la notion d'alliance. Et puis, après Gao, vous avez un groupe qu'on appelle Mansour. Ils sont dans une zone qu'on appelle le Gourma, et généralement, ils attaquent les véhicules des particuliers, des véhicules des ONG ou de la mission de l'ONU au Mali qui se monte vers le nord. Vous avez le Front de Libération du Massina, de Amadou Koufa, qui est un prêcheur radical, qui est dans la région de Mopti, mais qui fait des incursions dans le sud du Mali, et puis vers Sikasso, vous avez un autre groupe dont on entend moins parler. Donc voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, environ près de 10 groupes armés, mais il faut savoir qu'il y a d'autres petites katibas, oui, de toutes petites katibas qui opèrent dans le nord du Mali également.
Ce qui rend la situation sécuritaire particulièrement complexe au regard de votre analyse, Serge Daniel, et de vos explications. Gilles Yabi, l'objectif de tous ces groupes, c'est de déstabiliser le Mali?
Oui, l'objectif de tous ces groupes, c'est de déstabiliser le Mali, mais pas seulement le Mali. À nouveau, il est vraiment important de faire le lien avec ACMI, qui est le groupe le plus ancien et qui est un groupe qui n'est pas nécessairement focalisé exclusivement sur le Mali. Je crois qu'il faut avoir toujours, au-delà des éléments factuels, une analyse qui prenne en compte l'ensemble du contexte régional et de comprendre également que l'objectif, là, spécifiquement au Mali, c'est aussi d'empêcher une normalisation de la situation. On a effectivement un accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, dont l'objectif était précisément d'isoler les mouvements terroristes et de pouvoir avoir, disons, une sorte de bloc constitué par le gouvernement de Bamako, d'une part, et par les mouvements armés du Nord Mali qui ont déclenché le conflit en 2012 et qui n'ont pas un agenda islamiste et qui n'utilisent pas des mots d'action terroristes, en particulier les mouvements qui revendiquent l'indépendance de l'Azawad, alors, qui sont maintenant inclus dans ce processus. Donc oui, il y a un objectif de déstabilisation pour empêcher une normalisation de la situation au Nord Mali, et il faut enfin ajouter également qu'il y a beaucoup d'autres criminels au Nord Mali, il y a tous ceux qui sont impliqués dans les trafics, il y a aussi des passerelles entre ces groupes et certains groupes terroristes, mais leur objectif n'est pas le même. Oui. Et là aussi, vous voyez qu'il y a d'autres acteurs qui n'ont pas intérêt non plus à une normalisation de la situation.
Effectivement. Vous parliez à l'instant, Gilles Yabi, du processus de paix. Abdoulaye, bonjour.
Oui.
Bienvenue.
Oui.
Bonjour. Vous êtes à Bamako.
Moi, je voudrais poser... Je suis depuis Bamako, oui. Je voudrais poser rapidement deux questions en une. Est-ce que ces accords-là peuvent... Est-ce que cet attentat-là peut mettre à mal les accords d'Alger? Et est-ce qu'on peut le mettre aussi en rapport avec le rejet par Riyad de ces accords? Merci bien.
Alors ne raccrochez pas. Serge Daniel, le processus de paix risque-t-il d'être déstabilisé après l'attentat de vendredi à Bamako?
On peut se poser la question. C'est à partir du moment où il y a eu cet attentat-là, ça ralentit, je dirais, la marche du processus de paix. Parce que tous les groupes armés, vous savez, ceux qui sont proches de Bamako, ceux qui sont pas proches de Bamako, les ennemis de Bamako, s'apprêtaient à organiser des patrouilles communes dans le nord du Mali pour sécuriser les populations. Et donc, cet attentat a créé quand même l'émoi. Et ce qui se dit aujourd'hui, c'est que malgré cela, les groupes armés, qu'ils soient pro-Bamako ou contre Bamako, ou ceux du nord, sont décidés à aller de l'avant pour montrer que justement, ce n'est pas des terroristes qui vont empêcher le processus de paix d'aller de l'avant.
Même si la mise en œuvre de cet accord est au point mort, 4 mois après sa signature.
Disons pas au point mort, les choses commencent à bouger. Vous savez que les groupes rivaux se sont réunis il y a quelques semaines à Nefis, se sont entendus, à la surprise d'ailleurs générale. Il y a une réunion du comité de suivi des accords d'Alger qui s'est tenue vendredi dernier, mais qui a été totalement éclipsée par l'attentat. Les choses, ça va mieux, c'est coup-ci, coup-ça, mais c'est toujours mieux que le point mort.
Merci beaucoup Serge Daniel, correspondant d'RFI au Mali. Merci également à Gilles Yabi d'avoir été en direct avec nous de Dakar, consultant sur les pays d'Afrique de l'Ouest et créateur de Wati, laboratoire d'idées africains. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Guillaume Thibault, notre correspondant à Dakar, pour la liaison technique. Merci à toute l'équipe, évidemment, qui m'a permis de vous présenter cette émission. On aura l'occasion de revenir plusieurs fois dans la semaine sur la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région. Demain, nous parlerons de Mobutu Sese Seko, l'ex-président du Zaïre, décédé il y a maintenant plusieurs années, c'était en 1997, en tout cas il y a 50 ans, Joseph Mobutu prenait le pouvoir. Alors quelle image gardez-vous de celui qui a dirigé le Zaïre d'une main de fer pendant 3 décennies? Que reste-t-il de Mobutu? Vous pouvez dès maintenant vous inscrire 33 9 693 693 70. C'était